Radio Starbucks.
Morning edition from NPR News.
France Inter, le 18-20.
Et qui commence par sauver son camarade, hein, c'est pas moi, c'est d'abord le combattant. C'est que si on veut que l'équipe médicale arrive sur un blessé vivant, il faut pas qu'il soit mort dans ses 10 premières minutes, dans ses 30 premières minutes.
C'est froid, c'est clinique, et pour cause, il sera question de médecine de guerre dans l'escale reportage d'Un jour dans le monde avec les hommes de l'opération Barkhane, les soldats français que Nathalie Hernandez a pu suivre au Mali, sous les radars, et Amélie Perrier avec le premier bourgmestre noir en Belgique, avec les législatives en Afghanistan ce week-end et une peine de prison en Chine pour un chantre au Guiret. 18h50, le monde selon Trump avec un test ADN pour une future candidate que Trump avait traité de Pocahontas, un président qui croit un peu au réchauffement climatique finalement, mais it's very complicated. Grégory Philippe sera là pour nous raconter. 18h55, le monde à l'envers de Jean-Marc Four, ou comment les Verts renversent peut-être le pessimisme d'une certaine manière, mais avant, il vaut mieux craindre le prince plutôt que de l'aimer. C'est ce que disait Machiavel. Apparemment, ça marche pour Mohamed Ben Salman en Arabie Saoudite. Et on y vient tout de suite. Le monde est vaste. Et on n'a pas toute la journée. Bonsoir.
Fabienne Saint-Ès. Un jour dans le monde.
On va le dire comme ça, il y a donc un côté pile chez le jeune prince Mohamed Ben Salman, à moins que ce soit un côté pour nous, les Occidentaux, et qu'on essaye de nous mettre en pleine vue, si je puis dire, et puis un côté nettement plus conservateur et finalement beaucoup plus conforme à ce qu'est au fond l'Arabie Saoudite. D'un côté, donc une transformation radicale pour réduire la dépendance au pétrole, un droit de vote qui s'étend localement aux femmes, qui ont le droit de conduire, ou plus ou moins, depuis un certain nombre de semaines. Et puis donc, derrière la façade progressiste, moderniste, réformatrice, il y a des opposants opposés, tués, une société qui reste terriblement oppressive. Et ce dernier épisode, donc, avec l'assassinat très probable du journaliste Kamal Khashoggi à l'intérieur même du consulat de Turquie, semble confirmer tout cela. Bonsoir David Rigouli-Rose.
Bonsoir.
Vous êtes enseignant et chercheur attaché notamment à l'Institut français d'analyse stratégique. Je vais vous le demander comme ça, est-ce qu'on s'est finalement trompé sur Mohamed Ben Salman? Est-ce qu'on avait des lunettes roses? On a vu que ce qu'on voulait voir de ce prince réformateur, en fait.
Oui, il y a probablement un malentendu qui est initial, c'est-à-dire que il a offert à l'extérieur ce que, d'une certaine manière, ce qu'on souhaitait avoir. Oui, ce qu'on voulait entendre. C'était une option réformatrice qui ne pouvait être que séduisante. Le fait est que il a annoncé un certain nombre de mesures qui étaient de vraies réformes, mais beaucoup plus de caractère économique que de caractère sociétal. Et le malentendu est peut-être là-dessus, parce que la réforme en Arabie Saoudite ne se conçoit pas forcément selon la grille de lecture occidentale.
Mais justement, peut-être que le contresens vient aussi de là. Vous m'arrêterez si je me trompe. On a cru qu'il insufflait une forme de démocratie, mais est-ce que c'était pas plutôt une contre-révolution pour éviter que il y ait une sorte de contagion avec ce qu'avaient fait les voisins les années précédentes et les révolutions arabes l'une après l'autre, non?
Ah ben, incontestablement, il a pris en compte effectivement les enjeux sous-jacents des révolutions arabes qui a suscité une peur panique dans les pétromonarchies, qui ont compris qu'il y avait des réformes indispensables à opérer compte tenu des structures archaïques qui faisaient fonctionner ces pays. Et puis il y avait l'horizon de l'après-pétrole, donc il y avait une succession d'éléments qui obligeaient d'une certaine manière à entamer un certain nombre de réformes structurelles et particulièrement radicales pour l'Arabie Saoudite, qui s'y est pris en retard par rapport aux autres pétromonarchies, par exemple le Qatar ou les Émirats.
Mais alors, est-ce qu'avec cette histoire Khashoggi, est-ce qu'il se saborde au fond diplomatiquement sur la scène internationale, ou est-ce qu'au fond il s'en fiche? Parce que c'est même Trump qui l'a rappelé hier, quand on en est à 110 milliards, je crois, d'échanges entre les deux pays, pouf, on n'est pas un journaliste mort près, au fond. Alors, le cynisme va jusque-là.
Oui, de toute façon, le cynisme va de pair avec les affaires, hein, de manière générale. Vous faites allusion aux 110 milliards de contrats d'armement, parce que la somme globale, c'est 380 milliards qui auraient été soumis justement lors du passage de Donald Trump en Arabie Saoudite. Donc effectivement, il y a un lien, chacun se tient d'une certaine manière. Washington et Riyad se tiennent l'un l'autre par intérêt bien compris, avec tout ce que ça implique, a fortiori dans des situations particulièrement problématiques comme celle qui peut être aujourd'hui posée par la disparition du journaliste saoudien.
Parce que quand même, Trump envoie Pompeo effectivement pour montrer, attention, il ne faudrait pas nous la faire, mais enfin en même temps, il sous-entend qu'il aurait peut-être été tué par des voyous, donc déjà il est en train doucement de dédouaner exactement comme il le fait en général, puisqu'ils m'ont dit que ce n'était pas de leur faute, c'est sûrement vrai que ce n'est pas de leur faute, donc c'est déjà une manière de les dédouaner.
Oui, alors il y a sûrement de la part part de Donald Trump, une stratégie, il cherche un moyen, une porte de sortie à offrir aux autorités saoudiennes. Parce que manifestement, il est tout à fait, il sait très bien ce qu'il en est sur le fond. Ses services de renseignement et les services de, les renseignements fournis par les Turcs lui ont permis de se faire une idée assez précise. D'ailleurs, il est convaincu que le journaliste a bien été tué. Et donc, effectivement, ça soulève la question du lien organique entre Washington et Riyad. Et il peut pas faire l'économie au sens propre comme au sens figuré de cette relation. Et donc, ça l'oblige effectivement à être sur le fil. D'autant plus que le Congrès américain, lui, est beaucoup moins complaisant. Et donc, y compris d'ailleurs dans son propre camp, puisque il y a une logique bipartisane qui demande une enquête, hein, justement, approfondie. Et il y a un sentiment assez anti-saoudien assez fort qui persiste, malgré le lobby saoudien qui donne beaucoup d'argent pour améliorer l'image du pays.
Mais justement, et à cause de ce lobby saoudien, et pas seulement avec les États-Unis d'ailleurs, mais avec nous aussi et d'autres, au fond, est-ce qu'il a vraiment quelque chose à perdre? Est-ce qu'il y a un risque pour Ben Salman, là, aujourd'hui, avec cette histoire de meurtre ou pas?
Alors, il y a, pour l'instant, rien n'est pas publiquement avéré, donc il faut rester prudent. Cela dit, il y a effectivement, c'est probablement...
Les Turcs, cet après-midi, ont rappelé qu'ils en avaient quasiment la preuve, puisqu'il y a les fameux enregistrements sur la...
Oui, mais la question, c'est qui sont les donneurs d'ordre?
Absolument.
C'est toujours pareil, d'où la stratégie de Trump
de dire c'est des voyous.
Voilà, rogue, effectivement. Donc, c'était probablement un moment de vérité pour Mohamed Bin Salman. Pourquoi? Parce que, quand bien même, Donald Trump leur trouverait une porte de sortie par rapport à cette affaire spécifique très obscure et sanglante, la question de l'attractivité du royaume saoudien, notamment de la pertinence des logiques de réforme économique, va être posée quand on voit des déclarations comme Richard Branson. Alors évidemment, le gâteau est énorme, donc il reste très appétissant pour les Occidentaux. Mais on note quand même qu'avant cette affaire, il y avait quand même une relative prudence des investisseurs par rapport au projet pharaonique comme Neom, d'un montant de 500 milliards.
Et une espèce de ville bis intégralement faite.
Voilà. Alors c'était évidemment, il y avait un affichage particulièrement séduisant, mais on voit dans les déclarations, par exemple, de Richard Branson, fondateur de Virgin, qui a dit que si les choses étaient avérées, ça impliquerait de revoir complètement les relations économiques entre occidentaux, opérateurs économiques. Et là, on n'est pas sur le domaine politique. C'est vrai également du PDG de Uber. Et j'ai noté que Jamie Dimon, le PDG de la grande banque JP Morgan, a décidé prudemment de ne pas figurer lors de la réunion du 23-25 octobre prochain.
Le Davos du désert.
Le Davos du désert qui avait eu un précédent l'année dernière, assez efficacement vendu d'ailleurs. Là, on sent bien qu'il y a une crispation qui est beaucoup plus nette et ça s'explique par la défiance de certains opérateurs économiques qui commencent à se poser des questions sur le fond, d'autant plus qu'il y a une culture de la compliance qui s'est développée dans les entreprises qui oblige aujourd'hui à tenir compte de certaines choses pour l'image de l'entreprise.
Mais alors, de toute façon, ces fameux plans pharaoniques de Ben Salman, ce fameux Vision 2030, etc., ça a très peu avancé finalement. Donc est-ce qu'il ne s'est pas, de toute façon, lui, avancé en se mettant à dos une bonne part des élites d'Arabie Saoudite d'ailleurs, une partie de la famille royale aussi? Au fond, il avance à tout petit pas dans ces directions-là.
Il s'est fait beaucoup d'ennemis. Il est vraisemblablement de plus en plus seul aujourd'hui. Alors, il a le soutien de son père, mais son père est très âgé. Et après, la question se pose de la transition, parce que le montage était fait de telle manière qu'avec le soutien américain, il allait de soi qu'il allait accéder au trône. Aujourd'hui, les choses sont moins certaines. Elles sont moins certaines parce que beaucoup de princes s'interrogent sur justement la pertinence de la gouvernance saoudienne, sur la défiance qui commence à surgir vis-à-vis de l'extérieur. Même si la politique de communication a été très efficace dans les deux premières années, aujourd'hui les choses commencent à être beaucoup plus compliquées. On arrive dans le dur. Et le dur, c'est aussi la difficulté de mettre en œuvre les réformes et c'est aussi l'image qui aujourd'hui est beaucoup moins favorable que précédemment.
Et alors le dur, est-ce que c'est aussi un rapprochement de fait avec Israël pour lutter contre l'Iran, parce que le grand ennemi c'est celui-là? Est-ce que le dur, aux yeux de Ben Salman, est-ce que le dur c'est aussi la guerre au Yémen dans laquelle l'Arabie Saoudite est finalement enferrée sans savoir comment elle va s'en sortir? Est-ce que ça aussi ça commence à le bousculer dans son pays?
Oui, absolument. C'est-à-dire que ses choix de diplomatique extérieure ne sont pas une franche réussite. Et donc, d'une certaine manière, elles hypothèquent aussi le bon déroulé des réformes intérieures. Donc là, il y a un jeu de contradictions qui devient de plus en plus fort et qui hypothèque d'une certaine manière les attendus de son fameux plan Vision 2030. Et donc, ça devient très problématique pour lui.
Mais il y a un plan B ou pas? Est-ce qu'il y a un autre frère derrière qui pousse ou un cousin? C'est quoi le plan B?
Oui, il y a des rumeurs qui font... son frère qui est ambassadeur, le prince Khaled, ambassadeur à Washington, qui est plutôt bien vu des milieux occidentaux, effectivement, a été d'ailleurs mis en avant pour communiquer à la faveur de cette affaire, de cette sombre affaire, justement. On peut noter que lui ne s'est pas publiquement prononcé. Il est invisible pour l'instant. Et donc, ce qui traduit quand même un malaise, certainement. Et d'aucuns évoquent la possibilité de, pour son frère Khaled, de devenir vice-prince héritier, une fonction qui n'existe plus pour l'instant aujourd'hui. Donc, il y a beaucoup d'interrogations, et surtout, les interrogations en interne, c'est par rapport à la stabilité, effectivement, de sa stratégie personnelle, qui aujourd'hui peut être questionnée.
Qu'est-ce qui se passe s'il s'avère, si les preuves sont tangibles, et il s'avère qu'effectivement, c'est sur ordre de l'Arabie Saoudite que ce journaliste a été tué? On parle d'un journaliste du Washington Post, hein, c'est quand même quelque chose d'énorme. Qu'est-ce qui se passe, selon vous, à ce moment-là? Parce qu'à ce moment-là, Trump aura beaucoup plus de mal à louvoyer comme il est en train de le faire aujourd'hui.
Oui, mais déjà, les premiers effets se font sentir avec la bourse saoudienne, puisque...
Mais qui est remontée derrière,
elle
qui a baissé, puis qui s'est remise un peu dans les clous.
Elle s'est remise, ben, oui, parce que c'est le royaume de l'or noir, mais l'impact est quand même perceptible. Déjà dans cette défiance. Alors, de toute façon, il est vraisemblable que tout le monde cherchera, dans un premier temps de manière immédiate, à trouver une porte de sortie parce que les enjeux sont trop lourds en termes de stabilité mondiale. Et on peut penser d'ailleurs à la fameuse question des 28 pages par rapport au 11 septembre et au rôle supposé de certains Saoudiens. Et donc aujourd'hui, avec le recul, si ce rôle est évoqué, on parle de certains Saoudiens et non pas du gouvernement saoudien. Donc on peut se retrouver dans une configuration un peu similaire éventuellement dans le cas de l'affaire Khashoggi.
Et c'est marrant que vous évoquiez ça parce que moi j'avais le sentiment, mais visiblement je me trompais, que justement l'Arabie Saoudite avait fait de multiples efforts pour essayer de laver cette image-là post 11 septembre où effectivement les fameuses 28 pages et les pirates étaient des pirates saoudiens. Et que donc toute cette diplomatie derrière était aussi destinée à faire oublier ça.
Oui, et d'ailleurs la stratégie du prince Mohammed bin Salman était en partie là-dessus, c'était de dire que justement on allait revenir sur une Arabie Saoudite modérée, notamment en termes religieux, etc. Et que c'était aussi un moyen de, d'une certaine manière, de purger le passif par rapport à cette relation, parce que dans l'opinion américaine, ça reste très prégnant.
Une dernière chose, est-ce qu'il peut virer en pur dictateur, en fait? Est-ce que le virage pourrait être aussi dans ce sens-là? Après tout, chez certains voisins, les plus grands réformateurs étaient aussi les plus grands dictateurs. Le voisin Saddam, c'était le cas. Est-ce qu'il peut aussi virer et avoir ce vrai visage officiellement, le prince Ben Salman, ou pas?
Sur le plan politique, il l'a déjà, d'une certaine manière, parce qu'il a instauré une verticale du pouvoir à son profit quasi exclusif. Et c'était une rupture dans le fonctionnement du système saoudien. Simplement, les mesures répressives qui se succèdent en termes, notamment contre certains opposants, etc., effectivement, le confortent dans cette image. Mais à la limite, ça peut, dans sa stratégie personnelle, il peut considérer que c'est une nécessité justement pour faire peur aux 10 opposants. Le problème, c'est que ça entre en contradiction avec l'image positive d'ouverture qu'il veut favoriser pour attirer les investisseurs étrangers.
Et juste une dernière chose, est-ce qu'il pourrait y avoir un donnant-donnant, c'est-à-dire à partir du moment où il a été acté que c'est bien l'Arabie Saoudite qui est responsable de la mort du journaliste, on relâche un peu dans les prisons, je pense à certains blogueurs qui sont enfermés depuis longtemps ou des choses comme ça, est-ce qu'on peut envisager ce donnant-donnant-là ou pas? Pour satisfaire l'Occident, en gros,
oui,
donner
une
marque de ce genre.
C'est peu vraisemblable parce que ce serait perçu comme un aveu de faiblesse de la part des autorités saoudiennes et presque, d'une certaine manière, un aveu de culpabilité. Donc, ce serait très difficile. Et je pense que c'est Raf Badawi, notamment.
Par exemple,
D'ailleurs, c'est une demande qui est ancienne, qui a été faite au prince Mohammed bin Salman en disant que si vous êtes vraiment un réformateur, la première mesure, ce serait de libérer, justement, Raf Badawi, dont la femme est devenue canadienne.
Les enfants aussi.
Ce mois d'août, et c'est pas un hasard si les relations entre le Canada et l'Arabie Saoudite
se sont
dégradées simultanément.
David Rigoulet-Rose, enseignant et chercheur attaché à l'Institut français d'analyse stratégique, merci beaucoup
merci
de votre passage d'un jour dans le monde.
France Inter, Fabienne Synthès. Un jour dans le monde.
Suite d'un jour dans le monde, ça se passe au Sahel avec les médecins de guerre de l'opération Barkhane que Nathalie Hernandez a pu suivre. Sous les radars, ira en Belgique avec le premier bourgmestre noir ou dans une prison chinoise aussi pour un chant trop guiré. Le monde selon Trump, saison 2, c'est vous, Grégory Philips, bonsoir.
Bonsoir Fabienne.
Avec votre président Trump qui est un peu converti au changement climatique, mais alors un tout petit peu seulement.
Oui, un tout petit peu long entretien accordé hier à CBS, à la fameuse émission 60 Minutes, et dans lequel Trump a parlé changement climatique, mais aussi plein de sujets. Très, très bonne interview, très intéressante, on en parle tout à l'heure.
Voilà, on parlera de Pocahontas aussi, mais on vous dit pas pourquoi pour l'instant. Le Monde à l'envers, bonsoir Jean-Marc Four.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous.
Avec la percée des Verts en Bavière, beaucoup de choses à nous dire autour de ce sujet.
Oui, l'obsession pour les poussées d'extrême droite nous a en effet empêché de voir l'autre poussée en cours chez les pays fondateurs de l'Europe, pas uniquement en Allemagne, et c'est la poussée écologiste.
Allez, à tout à l'heure Jean-Marc, il sera 18h55, le tour de la planète n'est pas fini, loin de là, on passe par Los Angeles avec les Hills. Bonne drive. S'appelle Bone Dry sur France Inter, les Hills.
France Inter.
Good evening and welcome.
Je размахивал копьем.
Un jour dans le monde.
Intervention extra.
Sous les radars et Amélie Perrier, comme tous les soirs, Amélie, on commence par des élections en Belgique, des élections communales et une première chez nos voisins.
Oui, le premier bourgmestre noir a été élu hier dans la région de Bruxelles. Et c'est pas n'importe qui, il s'appelle Pierre Compagny. Ça vous rappelle quelque chose? En fait, c'est le papa d'une star en Belgique, le capitaine des Diables Rouges, le footballeur Vincent Compagny. Ah. Il n'a d'ailleurs pas manqué hier de féliciter son père dans une petite vidéo avec son frère François Compagny, lui aussi joueur de foot.
Voilà les amis, alors petite dédicace de la part du petit frère et de moi-même. À notre papa qui devient le bourgmestre de Ganseren. Donc on est très fiers de toi.
Premier bourgmestre noir de Ganseren.
Premier bourgmestre est zwarte bourgmestre in Belgique ooit. En het was tijd.
Félicitations.
Allez, ouais.
La vidéo en français et en flamand, car Ganseren, 25 000 habitants, c'est l'une des 19 communes bilingues de Belgique.
Voilà, et les communales d'ailleurs, Jean-Marc Four en reparlera tout à l'heure dans Le Monde à l'envers. Un autre scrutin en Afghanistan, ça c'est samedi.
Oui, des élections législatives et les talibans ont promis de tout faire pour empêcher ou du moins perturber le vote. Depuis deux mois, ils multiplient les attaques, les victimes se comptent par centaines. Ce week-end, 18 soldats de l'armée ont été tués. Là, ce que vous entendez, c'est l'intervention des secours qui vont chercher les victimes de cet attentat contre deux postes militaires dans l'ouest du pays. 15 soldats ont été capturés également. Attaque aussi contre un rassemblement électoral dans le nord et cet Afghan y assistait.
L'explosion s'est produite dans un endroit où les gens s'étaient rassemblés pour manifester leur soutien à la candidate Nazefa Yousufi Beg.
Voilà, au moins 22 morts. Là, une moto piégée a explosé à la fin du meeting de la candidate. Et c'est pas seulement parce que c'est une femme. Les terroristes s'en sont pris aussi ce week-end au local de campagne d'un candidat. Bilan, la mort d'un enfant et d'un agent de sécurité. Selon la commission électorale, au moins 9 candidats ont déjà été tués. Samedi, ils seront 2500 à se disputer les 249 sièges du Parlement. Il y aura environ 54 000 membres des forces de sécurité pour tenter de protéger les bureaux de vote. Mais pour des raisons de sécurité, 2000 bureaux de vote sur les 7000 que devait compter l'Afghanistan, 2000 n'ouvriront pas.
Allez, on en reparlera nous aussi évidemment dans un jour dans le monde de ces élections en Afghanistan. Amélie, des GPS qui nous permettraient d'éviter des zones à risque.
Alors sans parler de l'Afghanistan, le navigateur de votre voiture a pu vous emmener parfois dans des quartiers que vous auriez préféré éviter.
Sortez à droite.
Alors d'où l'idée de Mercedes, on connaît bien cette voie qui nous emmène parfois un peu n'importe où. L'idée de Mercedes de proposer des itinéraires plus sûrs. Dans son GPS, le constructeur allemand veut à l'avenir entrer comme critère le taux de criminalité des communes, ouais, voire des rues empruntées. Mercedes précise quand même que ces GPS seront disponibles seulement dans les pays où les autorités communiquent sur la criminalité des quartiers. Alors il y a eu des premiers tests qui ont été réalisés à Seattle aux États-Unis où les chiffres sont actualisés toutes les deux semaines. Cela pose quand même certaines questions, de l'utilisation de données des services de l'État à des fins commerciales.
Voilà, quelques questions en effet. Allez, la Chine, elle, ne manque rien de ce qui se passe sur les réseaux sociaux et sévit donc encore une fois.
Contre une starlette de l'Internet, elle n'a que 21 ans, elle s'appelle Yang Kaili. Elle vient d'être condamnée à 5 jours de prison pour ça. Ouais. Alors là, la jeune femme se filme en train de chantonner un serre-tête avec des bois de serre en peluche sur la tête, un peu comme votre peluche. Enfin, on n'en dira pas beaucoup plus. Fabienne vient d'entonner ses paroles. Debout, peuple qui ne veut pas être esclave. Les premiers mots de l'hymne national chinois. Or, on ne plaisante pas du tout là-bas avec la marche des volontaires. Yang a dû adresser une lettre d'excuse aux plus d'un million d'admirateurs qui suivent ses vidéos. Son compte est désormais bloqué. Toutes les vidéos ont été retirées. L'an dernier, le Parlement a voté une loi punissant l'insulte à l'hymne national de 3 ans de prison. Yang s'en sort plutôt bien donc pour cette fois.
Vous savez à quoi on reconnaît un pays libre, donc allons enfants de la patrie, tang 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 tang.
Vous prenez des risques, Fabienne, vous prenez des risques.
Allez, à demain. Amélie.
À demain.
France Inter.
Doha, Harare,
Jérusalem,
Mecca. Le 18-20.
Le Mexique est juste derrière.
Un jour dans le monde.
Séoul, Washington,
São Paulo,
Beyrouth, France Inter.
C'est dans le Sahel que nous emmène l'escale reportage ce soir, dans le Sahel avec l'opération Barkhane qui mobilise toujours, vous le savez, autant de militaires français contre les groupes terroristes armés. 4500 militaires déployés, dont 200 personnels de ce qu'on appelle le SSA, le service de santé aux armées. Donc des médecins, des infirmières, des auxiliaires sanitaires. Ils sont à la fois soldats et aussi sauveteurs, indispensables évidemment lors des missions sur le terrain pour prendre en charge les collègues blessés, mais pas seulement. Bonsoir Nathalie Hernandez.
Bonsoir.
Nathalie, vous avez pu les suivre au Mali, ces hommes et ces femmes. Et rappelons quand même que depuis le début de l'année, une vingtaine de soldats français ont été blessés en opération là-bas.
Ce que vous entendez, ce sont des tirs de riposte après un attentat dans les rues de Gao le 1er juillet dernier. Quelques minutes plus tôt, un kamikaze a fait exploser son véhicule au passage d'une patrouille de soldats de Barkhane. C'est un dimanche, il y a du monde dehors. Deux civils sont tués et une vingtaine blessés. 4 soldats français sont également touchés. Les secours envoyés par la base militaire de Gao vont arriver rapidement.
Quand nous arrivons, ce n'est pas tellement ce que nous voyons qui nous interpelle, c'est plus ce que l'on entend. Avant même de voir, on entend les gémissements des victimes, donc on arrive. Ce qui prend le pas, c'est les réflexes. Il n'y a plus la place au sentiment ou à l'émotion. Tout se hiérarchise dans notre esprit. Moi, j'ai été binommé justement avec l'infirmière Katia. On a pris en charge un patient, ensuite on a déroulé. Alors lui, il avait une plaie hémorragique au bras gauche. Il avait une plaie à la joue gauche aussi. Au préalable, des SC1, des secouristes au combat de niveau 1, avaient déjà effectué certains gestes. Donc ils avaient stoppé les hémorragies. Sur ce point-là, ils ont fait du bon boulot. Nous, ensuite, on vérifie la pose de garrot. On va un peu plus loin dans le geste médical. J'ai perfusé le patient pendant que l'infirmière préparait les drogues. Elle a passé les drogues. Ensuite, on a rechecké la totalité. On a emballé les petits pansements. Bien sûr, quand on prend en charge un patient, on reste à l'écoute des collègues qui peuvent demander de l'aide éventuelle.
Ce que vient de raconter le caporal-chef Geoffrey constitue la base de cette chaîne médicale. Il faut savoir que tous les soldats sont formés au SC1, le premier niveau du sauvetage au combat. Pour une simple raison, sur le terrain, le temps est aussi un adversaire, rappelle le médecin-chef Luc. Il dirige le rôle 1 de GAO, le poste médical avancé, l'équivalent de notre SAMU.
Pour faire simple, sur le champ de bataille, vous avez une partie non négligeable des blessés qui meurent dans la première heure. Il y a 80% qui meurent d'hémorragie, il y en a même 90%. Vous en avez 8% à peu près qui meurent de détresse respiratoire et vous avez 1 à 2% qui vont mourir d'obstruction des voies aériennes supérieures. Donc l'ensemble des mesures qui ont édicté le sauvetage au combat, qui était issu d'une pratique américaine, le T3C, c'était de dire on va cibler ces blessés-là, parce que ceux-là, ils sont sauvables. Et qui commence par sauver son camarade, hein, c'est pas moi, c'est d'abord le combattant. C'est que si on veut que l'équipe médicale arrive sur un blessé vivant, il faut pas qu'il soit mort dans ses 10 premières minutes, dans ses 30 premières minutes.
Pour assurer sa survie ou celle de son frère d'armes, nous explique le médecin-chef Luc, l'outil indispensable, c'est la TIC, la trousse individuelle du combattant. Tous les soldats en portent une.
Vous avez un pansement type israélien pour arrêter les hémorragies. Vous avez un garrot pour arrêter toutes les hémorragies de membres. Le garrot, là, il est pour que les gens ne meurent pas d'hémorragie. Donc on ne demande pas aux gens de réfléchir. Un blessé au membre, on met un garrot. C'est à nous, derrière, très rapidement, de nous occuper du garrot. Et ensuite, vous avez un pansement de type 3 côtés pour permettre une meilleure ventilation des blessés au thorax. Ça marche, en fait, quand vous avez un trou dans le thorax. Quand vous inspirez, l'air va essayer de rentrer par ce trou et donc ça va plaquer le morceau de la feuille de plastique sur le trou. Et quand vous allez expirer, l'air va vouloir ressortir et va pouvoir sortir puisque vous avez un échappatoire, comme une valve à clapet. Ce qui permet de tolérer largement les premières minutes avant l'arrivée des équipes soignantes. Et ensuite, vous avez aussi 2 sirettes de morphine pour calmer la douleur. Voilà.
Il faut savoir que, quelle que soit la mission, une patrouille ou une infiltration, un binôme médical accompagne toujours les soldats. C'est leur assurance vie. Et à chaque intervention, il applique la même procédure. Ensuite seulement, le soldat est rapatrié au rôle 2, c'est l'antenne chirurgicale de GAO. Le médecin principal, Kevin, réanimateur et chef du rôle 2.
Donc ici, nous sommes dans le couloir central du rôle 2, à partir duquel vont toutes les pièces. Voilà. Donc ici, nous sommes au niveau du déchocage. C'est la salle dans laquelle on accueille les blessés. On réalise ici des échographies, des radiographies. On peut transfuser, réanimer, placer sous respiration artificielle. Dans la foulée, s'il présente une détresse vitale et un problème chirurgical, c'est le bloc opératoire. C'est là où le patient doit arriver le plus vite possible, le bloc opératoire. Lorsqu'on reçoit plusieurs blessés, lorsqu'il y a un afflux, on est obligé, on est formé à procéder à un triage. On va définir des priorités de passage, faire passer un tel au bloc opératoire. Pendant ce temps-là, on envoie l'autre au scanner. Pendant ce temps-là, un troisième, on le place au déchocage. Et notre politique, c'est de mettre les 2 chirurgiens sur un patient pour plus d'efficacité, pour une intervention la plus brève et la plus vitale possible. Le but du jeu à la fin d'un afflux, c'est que tous les patients soient en sécurité, d'un point de vue médical.
Les 4 soldats français qui ont été blessés à Gao ont été rapatriés dans les 24 heures en France, dans un hôpital des armées. Aujourd'hui, ils sont rentrés chez eux et ils vont bien.
Nathalie Hernandez avec les médecins de guerre de l'armée française pour Un jour dans le monde. Merci beaucoup Nathalie, à très vite. Michael Kiwanuka est londonien, One More Night. I'll be right in the morning. Youssou Hanouna est londonien et Fabrice, le réalisateur de cette émission, se moque de moi parce qu'il paraît que tout le monde le connaît et que c'est le Marvin Gaye britannique et Jean-Marc Four aussi.
Absolument.
Me v'là bien.
France Inter.
I will work so hard.
Fabienne Saint-Esse.
I promise you, it's going to change.
Un jour dans le monde.
Allez, direction les États-Unis et le monde, selon Trump, avec vous, Grégory Philippe, saison 2, comme tous les lundis, la polémique du jour, Grégory, aux États-Unis. On se souvient qu'il y a quelques années, c'était Trump d'ailleurs qui l'avait lancé, il y a eu l'histoire du certificat de naissance de Barack Obama. Et bien maintenant, on parle des origines amérindiennes de la sénatrice démocrate Elizabeth Warren, qui peut-être est candidate à la présidentielle de 2020. Et donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle fait? Elle publie les résultats de son test ADN.
Oui, parce que cette sénatrice du Massachusetts, Elizabeth Warren, qui est d'ailleurs l'une des figures du Parti démocrate, fait régulièrement l'objet d'attaques de la part de Trump, qui dans ses meetings ou à la télévision l'a ainsi rebaptisée.
He said she's Native American, and I said Pocahontas. Pocahontas, I apologize to you. I apologize to the fake Pocahontas. I won't apologize.
Voilà, Pocahontas, du nom de cette native américaine qui a vécu ici en Amérique au début du XVIIe siècle et popularisée notamment par Disney. Et en utilisant ce sobriquet caricatural, Trump accusait Warren de mentir sur ses origines indiennes pour faire progresser sa carrière et notamment dire qu'elle était issue d'une minorité. Et donc Warren répond aujourd'hui en publiant le résultat d'un test ADN qui démontre qu'elle a bien des ancêtres amérindiens à 6 ou 10 générations. Alors pourquoi fait-elle ça aujourd'hui? Eh bien sans doute pour faire cesser les attaques de Trump et le prendre à son propre jeu, pour dire aussi, et ça elle explique dans une vidéo publiée ce matin, qu'elle n'a jamais utilisé ce passé pour avancer dans sa carrière. Et puis trois, Fabienne, on se dit effectivement qu'Elizabeth Warren, avec cette réponse, est peut-être en train de sérieusement se positionner pour la présidentielle de 2020. On verra bien.
Dans la fameuse vidéo, d'ailleurs, on la voit dire qu'elle a pris cette décision d'ADN avec toute sa famille, y compris ceux qui votent pour Trump, ce que j'ai trouvé assez savoureux. Allez, on revient, Frédéric, pas du tout. Vous, c'est Grégory. On revient, Grégory, sur le moment de télévision dont tout le monde parle aux États-Unis. Donald Trump, invité hier de l'émission 60 Minutes sur CBS.
Oui, longue interview du 45e président des États-Unis menée par l'impeccable Lashley Stahl. Franchement, je vous conseille de regarder cet entretien. La journaliste est à la fois extrêmement sereine et très insistante face à Trump, qui évidemment n'est pas facile à manier. C'est un modèle d'interview à l'américaine. Et je vous ai sélectionné trois extraits très courts et assez caractéristiques de ce qu'est la pensée de Trump aujourd'hui. D'abord sur le climat. La journaliste lui demande s'il pense que le changement climatique est une farce.
Je pense qu'il se passe quelque chose. Il y a des choses qui changent, mais ça peut aussi revenir en arrière. Non, je ne crois pas que ce soit un mensonge, mais je ne pense pas que ça soit lié à l'activité humaine.
Voilà, Trump, donc le climato-sceptique. D'ailleurs,
donc,
le président
quoi,
le président est en ce moment en Floride pour mesurer les dégâts causés par l'ouragan Michael. Deuxième moment, Fabienne, sur Kim Jong-un. Mm-hmm. Quand la journaliste rappelle à Trump que le dirigeant nord-coréen est un dictateur qui fait emprisonner ses opposants ou assassiner son demi-frère.
Je sais tout ça, mais je ne suis pas un enfant. Écoutez, je l'aime bien, on s'entend bien.
Voilà, I'm not a baby, c'est la phrase exacte de Trump. Troisième extrait enfin sur la nomination du juge Kavanaugh à la Cour suprême. Pourquoi vous êtes-vous moqué de cette femme, Christine Blasey Ford, qui accusait le magistrat d'agression sexuelle?
Écoutez, je ne vais pas rentrer dans ce débat, parce qu'on a gagné, ce n'est pas important.
Voilà, on a gagné, et c'est vrai que le juge conservateur Brett Kavanaugh a pris ses fonctions, Fabienne, à la Cour suprême la semaine dernière. Pour le président et pour son électorat, c'est bien là l'essentiel. On a gagné, on l'a nommé. Faut rappeler quand même qu'on est donc à 22 jours aujourd'hui des élections de mi-mandat.
Tiens, puisqu'on parle des fenêtres de Donald Trump, il y a un lieu où les manifestants pouvaient justement aller crier devant ses fenêtres, c'est sur Lafayette Square qui est juste en face de la Maison Blanche. Mais qu'est-ce que j'apprends? Bientôt, on n'aura plus le droit de manifester alors sous ces fenêtres-là.
Oui, c'est un endroit que vous connaissez bien, Lafayette Square, juste devant la Maison Blanche, où premier amendement de la Constitution oblige, on a le droit de venir tout dire et de manifester un peu comme on veut, des manifestations parfois spontanées, parfois débridées. Eh bien, le Service national des parcs et jardins a pour projet de fermer ce trottoir et de l'interdire aux manifestants. Projet aussi de durcir les conditions d'autorisation pour manifester de l'autre côté de la Maison Blanche, sur ce qu'on appelle le MALL, ce que les groupes de défense des droits civils ici dénonce aujourd'hui comme une tentative de restriction de la liberté d'expression dans les rues de Washington, la capitale.
Bah écoutez, j'espère qu'ils vont pas le fermer, Lafayette Square, parce que vous êtes au courant, Grégory, on a une émission spéciale à faire, vous et moi, exactement à cet endroit-là, dans 22 jours. Allez, merci beaucoup, Grégory Phillips et Le Monde selon Trump.
Le 18-20, Fabienne Saint-Esse. sur France Inter.
Le Monde à l'envers et Jean-Marc Four. Jean-Marc, en Allemagne, les élections régionales en Bavière se soldent donc par une surprise. On attendait la poussée de l'extrême droite et de l'AFD et ce sont les écologistes qui progressent fortement. Un phénomène qui dépasse la seule Allemagne avec les résultats de scrutin hier en Belgique et au Luxembourg et c'est votre Monde à l'envers.
Vous connaissez l'adage, un train peut en cacher un autre. Eh bien, c'est également vrai sur le terrain politique. À force d'être particulièrement attentif aux poussées de l'extrême droite, nous n'avons sans doute pas vu venir le train écologiste. Entendons-nous bien, il ne s'agit pas de dire ici que l'attention portée à la droite extrême est illogique. Sa progression est réelle dans ces dernières années en Europe et en plus dans le cas allemand. Le passé exige évidemment une vigilance accrue. Mais du coup, cette obsession médiatique nous a fait un peu ignorer l'autre phénomène en cours, donc la politique européenne est en train de se verdir. Les résultats en Bavière, d'abord, effectivement, sont édifiants. Le parti d'extrême droite, l'AFD, reste solide, mais il ne progresse pas réellement à 10% des voix. En revanche, les écologistes font une percée spectaculaire. Ce sont eux qui profitent de la forte baisse des chrétiens-démocrates de la CSU. Avec près de 18%, les Verts s'installe comme la deuxième force politique de la deuxième région la plus peuplée d'Allemagne. Un électeur allemand sur six vit en Bavière. Et le résultat est d'autant plus incontestable que le taux de participation est élevé, 72%. Et plus on va dans les centres-villes, plus les succès des Verts sont spectaculaires. Par exemple, à Munich, ils deviennent le premier parti de la ville. Ils dépassent même 40% des voix dans la circonscription du centre de la capitale bavaroise. Le tout avec un discours pro-européen assumé, centré sur l'écologie et le vivre ensemble. Et des leaders rajeunis trentenaires.
Et le même phénomène s'est donc produit, vous le disiez, ce week-end en Belgique et au Luxembourg.
On commence par la Belgique. À l'occasion des élections communales hier, dont parlait Amélie Perry tout à l'heure, les écologistes sont en forte progression, en particulier dans les grandes villes, comme en Bavière. Ils arrivent deuxième à Bruxelles et à Anvers avec 17 et 18% des voix, comme en Bavière. Dans certains quartiers, on dit communes à Bruxelles, leur score dépasse 30%. Par exemple, dans le quartier européen d'Ixelles, où ils sont en tête, les écolo-grunes, comme on les appelle en Belgique, peuvent prétendre piloter la région de Bruxelles-Capitale. Dans le petit Luxembourg voisin, maintenant c'était hier les élections législatives, alors fait rarissime en Europe, la coalition sortante n'est pas désavouée, mais au sein de cette coalition libéraux-socialistes-écologistes, devinez quoi, seuls les Verts progressent. Ils passent de 6 à 9 députés et ils approchent les 16% des voix. Ils avaient deux ministres dans le gouvernement sortant qui ont notamment fait progresser les infrastructures de transport, le tramway, les pistes cyclables, etc. À ce paysage, on peut ajouter les Pays-Bas, où les écologistes de Groenlinks ont remporté cette année les mairies d'Amsterdam et d'Utrecht, et on perdra pas de vue non plus que le parti sorti en tête en Italie au printemps dernier est le mouvement 5 étoiles. Alors, c'est d'accord, il est complètement inclassable, mais il y a quand même de fortes racines écologiques à l'origine. On se résume, Allemagne, Belgique, Luxembourg, Pays-Bas, voire Italie, point commun, on est là en présence de 5 membres, 5 des 6 membres fondateurs de l'Europe politique. Il reste la France où l'électorat écologique a sans doute été capté par Emmanuel Macron lors de la présidentielle. Il y a donc bien au cœur de l'Europe une poussée écologique d'une ampleur finalement comparable à la poussée d'extrême droite.
Mais du coup, est-ce que ça veut dire qu'il faut s'attendre au même phénomène lors des élections européennes du mois de mai prochain ?
Alors ça, il est trop tôt pour le dire. On n'est pas encore en présence d'un vote solidement installé. Tous les électeurs qui votent écolo ne sont pas convertis à l'écologie. Il y a d'abord la conséquence dont l'extrême droite tire également profit du rejet quasi unanime en Europe des partis traditionnels de gouvernement. Les sociaux-démocrates de centre-gauche sont en chute libre partout et les conservateurs de centre-droit connaissent une érosion qui s'accélère. Il y a donc des électeurs européens qui sont d'abord et avant tout déboussolés en quête d'une nouvelle offre politique. On peut quand même en tirer deux enseignements. Un, s'ils sont à droite, les écologistes ont en effet un boulevard pour réussir aux européennes, d'autant que leur sujet de prédilection, l'environnement, exige une réponse transnationale. Deux, la thématique des migrants, qui est obsessionnelle au sein de l'extrême droite, et dans une partie de la presse soit dit en passant, ne peut pas être la seule à monopoliser l'agenda politique, puisqu'elle n'est pas la priorité pour bon nombre d'électeurs.
Jean-Marc Fourré et Le Monde à l'envers tous les jours, dans Un jour dans le monde. Jean-Marc, merci. À demain, le 18-20. La suite, c'est le journal de Pierre Veil. Et puis, le téléphone sonne tout de suite.